Octave Mirbeau, Des artistes, saison 2, J.F. Raffaelli. Les grandes expositions de peinture, comme celle du Champ de Mars et des Champs-Élysées, deviennent d'année en année plus inadmissibles et choquantes. Elles ont un aspect barbare qui nous en éloigne impérieusement. Telles, j'imagine, ces marchés africains au déballage d'étoffes hurlantes et qui font hurler de plaisir les nègres. Chacun comprend qu'elles doivent disparaître. Elles ont fait leur temps, elles n'ont fait que cela. De même que tant de modes jadis révérées, dont nous nous apercevons aujourd'hui qu'elles ne riment plus à rien, ni à un besoin, ni à une curiosité, ni à une passion. Il faut bien le dire, les joies sont épuisées des déjeuners, ohé, ohé, de Le Doyen et de la Tour Eiffel. Le saumon sauce verte n'a plus pour nous de gaieté ni de mystère. Hélas, son esthétique agonise. Ce n'est pas ici le lieu de philosopher, mais on peut dire que ces expositions ont été funestes à l'équilibre social, car elles détournèrent de leur voie naturelle quantité de braves gens qui, sans elles, fussent devenus de parfaits notaires et d'invulnérables épiciers. Oh, quelle mélancolie dans cette idée! Tous les jours, les peintres qui ont le respect de leur art désertent ces capharnaüm céphalalgiques où tout se confond dans la plus disparate médiocrité, où, pour découvrir une belle œuvre, l'esthète effaré doit, au prix de quelles fatigues, de quels ahurissements, remuer, déplacer tant de lourdes et innommables choses qui s'interposent entre elle et lui. À travers quel Carolus Durand faut-il jouer des coudes? Quel caillouteux billotte faut-il franchir? Le long de quels béraux escarpés et sans bord faut-il errer pour pénétrer enfin jusqu'à un Whistler ou un Puvis de Chavannes? Beaucoup n'ont point cette endurance physique, cette audace morale qui conviennent surtout à des explorateurs centrafricains, réfractaires aux souffrances de la faim, de la soif et de la fièvre qui montent des eaux croupissantes. Et ils s'abstiennent. Et puis, le vernissage fini, allez vous aventurer dans ces salles. Il n'y a que les steppes de la Russie et les plateaux de l'Asie centrale pour vous donner l'idée d'un pareil désert. Les expositions particulières et individuelles qui se multiplient de plus en plus à tous les coins de Paris sont évidemment un progrès sur l'inélégance et l'hostilité de ces solitudes officielles. Mais la plupart des marchands qui les organisent et les exploitent nous affligent vraiment trop par leur manque de goût si obstiné. Ils exigent les fonds rouges vineux, les tapis de pourpre sale, les écrasants et ventrus cadres d'or, les lumières crues qui, sur les toiles, font papilloter et tournoyer un essaim de reflets, ainsi que des myriades de multicolores moucherons au-dessus des eaux aveuglantes dans le soleil. Chacun d'eux ne songe pas que l'art de la peinture s'accompagne et se complète par l'art de la présenter. Monsieur J.F. Raffaelli, à l'ingéniosité de qui nous devons tant de choses nouvelles et curieuses, a eu une idée véritablement charmante. Il inaugure aujourd'hui la peinture chez soi. Au lieu de nous renvoyer, comme tant d'autres qui manquent de politesse et de mobilier, au Champ de Mars ou chez le marchand du coin, il vient nous dire « Venez chez moi. J'y ai accroché quelques toiles, quelques offortes en couleurs, quelques sculptures pittoresques. C'est là que j'ai conçu ces œuvres, là que je les réalisais. Elles s'offriront à vous dans leur lumière originelle, parmi les objets familiers qu'elles connaissent et auxquels elles s'harmonisent. Il me semble qu'elles doivent garder quelque chose de l'intimité, du silence, de l'amour qui les bercèrent, vertus adorables qui s'évaporent aux voisinages inhabituels, grossiers et froissants, car personne n'a de la pudeur comme une œuvre d'art. Je demeure rue de Courcelles, tout près des fortifications que chanta si bien mon ami Age Albert, à quelques pas de cette banlieue poignante et tragique que j'ai tant aimée. La maison est jolie, souriante et claire. Un petit jardin très vert et fleuri en orne le seuil. Des mères y chantent, des pinsons y font leur nid. Et ça ne coûte rien, que le voyage. lequel est un amusement et une fête par un beau jour de soleil gris et rose. Il est vrai, mais ce genre d'exposition n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne conseillerais pas à un peintre qui habiterait le 5e d'en faire l'essai. La maison est jolie, en effet. Son calme engage à d'hospitalières visites. L'atelier s'éclaire doucement par de grandes baies divisées en petits carreaux, et les murs sont presque blancs, à peine teintés, sur lesquels la fantaisie de l'artiste a placé, çà et là, quelques décors légers. Pas de meubles fracassants, pas de lourdes étoffes qui pendent. Une galerie relie la salle à manger à l'atelier. C'est vaste, clair et joyeux. Dans ce cadre simple, l'exposition de M. J.F. Raffaelli s'arrange délicieusement. Ce qui charme d'abord en elle, c'est qu'elle n'a pas l'aspect voulu et cherché d'une exposition. Tous les tableaux semblent occuper une place naturelle et favorite, familiale, pourrais-je dire. Ils ont du tact, de la discrétion, une irréprochable tenue. Ils font partie du « home », ignorent les dépaysements niais ou les prétentieux snobismes des toiles en représentation chez des étrangers. Peu nombreux, d'ailleurs, comme il convient, et choisis délicatement, sans en avoir l'air, ils n'offusquent point les murs de leurs superpositions étalées et de leurs encombrants contacts. Et c'est un repos de la vue, un bien-être de l'esprit, une émotion d'art frissonnante et très douce. Ce qu'ils disent, ces tableaux, ces dessins, ces sculptures décoratives, M. Gustave Geffroy vous le dira mieux que moi. Et si, aller voir dans cette lumière exquise, dans cet arrangement libre de tout artifice et de toute mise en scène astucieuse, vous ne ressentez pas profondément, en vous-même, tout ce que l'artiste a prodigué de force, de charme, de tendresse, de mélancolie, d'ironie perçante, d'observation humaine et de métier savant, à quoi bon vous le dire? C'est qu'en vérité, l'œuvre de J.F. Raffaelli aura dépassé par sa philosophie le domaine réservé à la peinture, et souvent, par la vérité de ses évocations, par la vie surprise jusque dans les tréfonds des misères sociales, elle aura atteint aux belles synthèses de l'histoire. Histoire contemporaine, histoire de tous les jours à laquelle nous sommes mêlés, que nous coudoyons, que nous vivons, sans en bien comprendre ce qui y grouille de sourdes révoltes et de douleurs muettes. Types inoubliables de miséreux et de bourgeois, d'ouvriers aux membres déformés par le travail, de paysans soudés au sol qu'ils fécondent en vain, de vieux chevaux qui tombent sous les travaux écrasants, comme tombent les hommes, leurs frères en misère, des passants et des entrevues, de l'humanité enfin, en marche vers quelque chose. Ce que nous devons admirer dans cette œuvre, déjà énorme, c'est le caractère constant de simplicité, de jour en jour plus précis et plus direct, avec lequel l'artiste inscrit, avec son art très noble, dans du dessin très clair, tout ce qu'il y a de complexe, de contradictoire, de douloureux et d'ironique à la fois dans l'homme et dans la nature. Il ne va pas chercher les compositions abstruses et tourmentées, les fades allégories et les illusoires symboles qui ne disent en général que ce que chacun veut leur faire dire selon les dispositions de son tempérament et de son humeur. C'est la vie qu'il reproduit, la vie qui passe devant nous, en images familières et connues, la vie humble ou somptueuse dans ces paysages urbains ou dans ces ambiances campagnardes, mais dont il nous dévoile, avec une singulière compréhension, tout l'inconnu. Sur cette œuvre, avec une précision de style admirable, pèse vraiment le sens des fatalités et du mystère de la vie. Il faut aller voir cette exposition dans son joli décor de maison, calme, car, à la sensation qu'elle donne d'être chez un grand artiste, s'ajoute celle, très douce et très consolante, que l'on est dans la maison d'un brave homme. Le Journal, 3 mai 1894.